Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, 2 milliards de dollars pour un cancer provoqué par le Roundup, condamnation faramineuse de Bayer Monsanto aux États-Unis, alors que la firme assène toujours que son herbicide est inoffensif. Les Invalides et l'hommage de la nation pour Cédric de Pierrepont et Alain Berton Cello, mort en libérant des otages au Burkina Faso après la polémique. Emmanuel Macron devra trouver les mots pour dire la reconnaissance de la France. Avec leurs petites minutes de temps de parole, ils pestent contre la campagne officielle des européennes. Les petits candidats crient à l'injustice, on va les entendre. Lui aura droit à 19 minutes et 43 secondes jusqu'au vendredi précédant le scrutin.
Et à 25 aujourd'hui, suite de nos grands entretiens spéciaux pour la dernière ligne droite donc de la campagne des européennes. C'est aujourd'hui Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, qui sera au micro d'Inter. Intervenez au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
À la une également des journalistes convoqués à la DGSI à partir d'aujourd'hui, un médecin inspecteur de la police jugé pour agression sexuelle, la sécheresse inquiétante pour la troisième année consécutive et l'ouverture du festival de Cannes avec les zombies de Jim Jarmusch.
France Inter.
Le glyphosate est-il dangereux pour la santé? Si certains en doutent, la justice américaine en est convaincue, qui vient de condamner une troisième fois Bayer Monsanto pour son Roundup, best-seller des herbicides au glyphosate. Pour le tribunal d'Oakland, en Californie, il est directement responsable du cancer d'un couple de retraités, auquel la firme devra donc verser 2 milliards de dollars d'indemnité si le jugement est confirmé, Grégory Phillips.
Alberta et Alva Pilliod, respectivement 74 et 76 ans, sont tous les deux atteints d'un cancer du système lymphatique. Durant le procès, qui a duré un mois et demi, le couple a expliqué qu'au milieu des années 70, dans le nord de la Californie, il avait utilisé du désherbant Roundup dans les nombreuses propriétés qu'il achetait et rénovait à l'époque. Or, le jury a estimé que Monsanto n'avait pas prévenu les utilisateurs des dangers potentiels de son produit phare.
On aurait souhaité que Monsanto nous mette en garde, que sur l'étiquette, par exemple, ou dans les publicités, il soit écrit « Attention, ce produit peut provoquer un cancer ». Nous, on pensait que c'était très sûr à utiliser. Nous nous battons contre cette maladie depuis 9 ans et c'est à cause du Roundup.
L'an passé, Monsanto avait été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier californien, Dwayne Johnson, mais la somme avait ensuite été réduite à 78 millions. À chaque fois, Bayer fait appel, affirmant que son produit reste sans danger, mais aux États-Unis, les procès se multiplient. Une dizaine sont prévus cette année et en 2020, et un peu plus de 11 000 procédures contre le Roundup sont en cours. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et Bayer Monsanto pourrait signer un accord amiable avec tous ses plaignants pour éviter les procès en perspective. Les trois premières condamnations de la justice américaine lui ont déjà fait perdre des milliards de dollars à la bourse.
Il est 8h04, un président, Florence, devant deux cercueils dans la cour des Invalides.
Hommage de la nation ce matin aux deux commandos marines tués au Burkina Faso, Cédric de Pierrepont et Alain Berton Cello, morts en opération pendant la libération de quatre otages, dont deux Français enlevés la semaine dernière. Emmanuel Macron leur remettra la Légion d'honneur à titre posthume après un discours pour saluer leur courage et faire taire les critiques, Cyril Gradiani.
Samedi, à l'arrivée des ex-otages sur le tarmac de l'aéroport, Emmanuel Macron n'a pas pris la parole. Un accueil, rien de plus. En privé, il considère avoir fait son devoir. Ne pas le faire avec sobriété et gravité aurait signifié que les vies de ses soldats n'en valaient pas la peine, explique une de ses proches. Ce matin, en revanche, pour l'hommage qui leur sera rendu, le chef de l'État parlera. Il sera aux côtés des familles, il assume d'avoir décidé de lancer l'opération, seul, et c'est lui tout seul, poursuit un de ses proches, qui devra regarder les mères de Cédric de Pierrepont et Alain Berton Cello dans les yeux. Très vite, pour évoquer ces deux soldats d'élite morts en mission, il a parlé de héros, comme pour le lieutenant-colonel Beltrame. Pour autant, Emmanuel Macron ne veut pas donner la même tonalité. Difficile à comparer, à chaque circonstance, son discours résume un de ses amis, qui espère néanmoins le même retentissement qu'il y a un peu plus d'un an. Il faut axer sur le sacrifice, décrypte son entourage. Ils sont l'honneur et la liberté de tous les Français.
Et avant la cérémonie officielle aux Invalides que nous suivrons sur France Inter à partir de 11h, ceux qui voudront saluer les militaires pourront se recueillir sur le pont Alexandre III au passage du convoi funéraire à 10h ce matin. Cédric de Pierrepont et Alain Berton Cello étaient tous les deux membres du commando Hubert, unité d'élite de la marine française basée à Saint-Mandrier-sur-Mer, tout près de Toulon, où les militaires militaire comme les autres. Sophie Glotin salue aujourd'hui la bravoure des deux hommes.
Oui, c'est le cas de Roland. Nous croisons cet ancien officier de marine devant la base navale de Toulon. Il veut immédiatement rendre hommage aux deux commandos Hubert.
Pour moi, ce sont des héros, de toute façon. Ils ont donné leur vie pour sauver d'autres vies, voilà.
On vous sent ému ?
Oh, ça, c'est quelque chose qui prend de toute façon. Chez les militaires, c'est déjà risqué, mais chez les commandos maraudes, davantage certainement. C'est le métier qui veut ça.
Philippe est un autre retraité de la Marine nationale.
Même si c'est leur métier, même si c'est quelque chose qu'ils ont choisi de faire, c'est des héros.
En 17 ans de carrière, Philippe est intervenu dans plusieurs zones de conflit avec toujours dans un coin de la tête les risques liés à la mission.
On l'a toujours, ouais. Dans les zones de conflit, on y pense, ouais, au moment de partir.
Lisette n'est pas militaire, elle n'en connaît pas d'ailleurs, mais elle est très émue par le sacrifice des deux commandos de Saint-Mandrier. Depuis vendredi, je pense beaucoup à eux, dit la Toulonnaise.
Ce qu'ils ont fait, c'est admirable. Je pense à la famille qui... Ils peuvent être fiers de leurs enfants. Franchement, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont sauvé des vies, mais ils ont donné la leur, de vrais héros, oui. Heureusement qu'il en reste encore.
Reportage signé Sophie Glotin de France Bleu Provence.
Il est 8h07, Florence, c'est un casse-tête français, celui des temps de parole de la campagne officielle pour les élections européennes.
Et oui, combien de temps pour les 34 listes en course dans les clips officiels diffusés jusqu'à l'avant-veille du scrutin sur les antennes de Radio France et de France Télévisions. 56 minutes pour La République En Marche contre 18, par exemple, pour Les Insoumis. Ce découpage du CSA fait beaucoup de mécontents, Maxence Lambrec.
Toutes les listes ont au moins le droit à 3 minutes. Vous pourrez donc tout à l'heure entendre ceci.
Le roi n'a pas à conquérir sa place.
Les royalistes ont quasiment autant de temps d'antenne que Benoît Hamon, la tête de liste du mouvement Génération.
Nous en avons 4 minutes 23 quand le président de la République a plus de 55 minutes son parti, ce qui veut dire 15 fois moins de temps pour essayer de convaincre que le parti présidentiel, c'est pas David contre Goliath, c'est David contre 10 Goliath. Là.
Les règles suivies par le CSA ont justement été révisées l'année dernière.
La République En Marche s'est construit une loi alors qui les arrange. Donc oui, c'est la loi, donc ils sont pas dans l'illégalité. La difficulté, c'est que le CSA ne sert à rien, tout ça devient grotesque.
Dans les faits, cette réforme bénéficie surtout à Marine Le Pen.
Vous n'avez qu'un seul jour, qu'un seul tour, qu'un seul vote.
Moins de 3 minutes de clip en 2014, 3 quarts d'heure cette année, parce qu'il n'y a pas que le nombre de parlementaires qui jouent, les sondages et les résultats des dernières élections sont maintenant pris en compte.
N'attendez pas une meilleure Europe. Changez-la maintenant.
56 minutes pour En Marche, 48 pour le RN. Le duel se transforme en un duo organisé, dénonce Jean-Luc Mélenchon.
Vous pouvez faire entendre votre voix.
En tout et pour tout, il y aura 50% de clips en plus qu'aux dernières européennes.
Maxence Lambrec, un prêtre catholique de Versailles mis en examen pour viol et agression sexuelle. C'est une mère et sa fille qui avaient porté plainte il y a plus de 2 ans. Le prêtre suspendu conteste les faits. Pour obtenir leur certificat d'aptitude physique, les policiers du Grand Est devaient passer entre ses mains au sens propre, comme au figuré pour certains. Un médecin, inspecteur régional de la police, comparaît aujourd'hui au tribunal correctionnel de Reims pour agression sexuelle sur 10 adjoints de sécurité, 9 femmes et un homme. Cécile Soulet, tous dénoncent des gestes déplacés lors de leur visite médicale.
Les plaignantes décrivent des palpations mammaires insistantes, seins nus, pour une simple visite d'aptitude physique, alors que le médecin n'est pas gynécologue. Le seul homme victime dans l'affaire dénonce aussi des attouchements sur ses parties intimes. Depuis ses premières plaintes, 12 autres victimes se sont fait connaître. Eva, par exemple, gardien de la paix en Alsace, a elle aussi porté plainte.
Quand vous avez une hernie discale qui a été opérée par la voie arrière, qui vous demande de vous mettre seins nus, et à aucun moment, dans mon dossier, il n'y a eu mention de la cicatrisation concernant mon hernie discale.
Camille, agent au ministère de l'Intérieur en Lorraine, a subi elle aussi par le passé ces drôles de visites médicales et elle dénonce le silence de sa hiérarchie.
On est face à un médecin qui vous demande de vous dénuder et après il m'a touché les seins et de savoir que la hiérarchie était au courant, après moi et après d'autres personnes qui avons dénoncé certaines choses. Ils ont laissé faire cet homme-là. J'ai mal pour moi et pour toutes ces victimes qui auraient pu être épargnées.
Ça faisait des années que ça durait, tout le monde le savait, ajoute encore cette policière. Le médecin inspecteur régional qui occupait ses fonctions depuis plus de 20 ans était décrit en interne comme intouchable jusqu'à ce début d'année et ses 10 premières plaintes.
Le médecin était suspendu depuis que l'affaire a été révélée. France Bleu a révélé que 12 autres plaintes ont été reçu par l'IGPN, l'inspection régionale de la police nationale. Un autre procès se tiendra prochainement à Metz.
Il est 8h10, 3 journalistes à la DGSI à partir d'aujourd'hui.
Convoqués par la Direction Générale de la Sécurité sécurité intérieure, Benoît Colombat de Radio France, en fait partie pour avoir révélé des informations sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. Alexandra Hakoun, il risque, ces trois journalistes, une mise en examen pour compromission de la défense nationale.
Au cœur de cette convocation, une note classée confidentielle défense, transmise au site d'information participative Disclose, un document de 15 pages, rédigé le 25 septembre 2018 par la direction du renseignement militaire et remis au président de la République en octobre. Pour la première fois, y est listée et cartographiée une partie des armes vendues par la France et utilisées dans le conflit au Yémen. Le ministère des Armées a porté plainte, très bien. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour compromission du secret de la défense nationale, soit, mais convoquer les journalistes à l'origine de ces révélations, même en audition libre, comme ce sera le cas, pour Maître Basile Adair, avocat spécialiste du droit de la presse, c'est on ne peut plus surprenant.
C'est une convocation totalement inhabituelle, manifestement envoyée par des gens qui ont mal compris ce que c'est le secret des sources des journalistes, qui est leurs droits fondamentaux, qui leur permettent de se taire en toutes circonstances, nous dit la loi, sur l'origine de leur information. Je n'ose croire que ce soit une forme d'intimidation de la presse, parce que ça serait très grave.
Dans une pétition lancée sur Internet et qui a recueilli près de 28 000 signatures, la journaliste yéménite Afra Nasser, lauréate 2017 d'un prix international sur la liberté de la presse, parle de honte et appelle la France à renoncer à toute menace de poursuite envers les trois journalistes. Ils risquent en théorie 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Au Sri Lanka, ce que l'on redoutait après les attentats du dimanche de Pâques est en train de se produire. Un commerçant musulman a été mortellement lynché par la foule hier au cours d'émeutes en représailles aux attaques qui ont fait 258 morts. Ces deux derniers jours, des groupes chrétiens ont attaqué des mosquées, des magasins et des véhicules appartenant à des musulmans dans le nord du pays. Et puis quand les Iraniennes se rebellent contre leur voile, les affrontements ont éclaté hier à l'université de Téhéran pendant une manifestation contre l'obligation du voile entre deux groupes d'étudiants aux convictions différentes.
Et en France, on s'apprête sans doute à vivre une troisième année de sécheresse.
Autorités redoutent l'été qui arrive. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy réunira donc aujourd'hui la commission de suivi hydrologique pour sensibiliser les usagers de l'eau à cette situation inquiétante. Reportage dans le Rhône, signé Christophe Vincent.
En surface, la terre est humide et la végétation foisonnante, mais c'est un leurre. L'eau manque en profondeur. Georges Cornuez travaille aux espaces verts à Lantilly.
Ça fait 2-3 ans où on est un petit peu dans la même situation, où on démarre au printemps avec un déficit en eau. Quand j'ai commencé dans les années 80, on n'avait pas ce problème-là. Au mois de mars, il faisait que de pleuvoir. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Et cette année, on a eu un mois de février très sec. Donc la végétation, au printemps, elle a besoin d'eau et on la porte. Et on constate qu'il y a de plus en plus de vent. Ça n'arrange pas.
Les pluies récentes dispensent les paysans d'arroser, mais elles ne suffisent pas à rattraper le déficit. Stéphane Payet, céréalier et vice-président en charge de l'eau à la Chambre d'agriculture.
La végétation pousse aussi vite qu'il pleut. Et en fait, elle consomme toute la pluie sans que cette eau puisse aller dans la nappe phréatique et donc remonter la nappe phréatique. On n'a pas d'eau pour l'été. On est actuellement en train d'aller chercher au canal de Jonage pour amener l'eau du Rhône, pour éviter d'être tributaire de la nappe phréatique et laisser la nappe phréatique à d'autres usages, l'eau potable, les industriels.
Le bétonnage des sols envoie trop d'eau vers les canaux, puis vers la mer et non plus dans les nappes. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
De plus en plus de litiges liés aux factures de gaz et d'électricité. Le médiateur de l'énergie a enregistré une hausse de près de 60% des dossiers traités ces deux dernières années. Les problèmes de raccordement au réseau qui lui sont signalés augmentent dans la même proportion. C'est le fournisseur d'électricité italien Eni qui remporte la palme des soucis. Enfin, des zombies sur le tapis rouge de Cannes ce soir. Iggy Pop et Tom Waits en mort-vivant selon Jarmusch pour ouvrir le festival. Le film et la cérémonie seront retransmis en direct dans 600 salles de cinéma à travers la France. Ainsi, le commun des mortels aura un peu l'impression d'y être, de plonger avec les spectateurs cannois dans le nouvel univers de Jarmusch. Et Vabétan, qui a déjà vu The Dead Don't Lie, a frémi et ri devant ce film d'horreur d'un des maîtres du cool.
Puisque c'est la fin du monde et qu'en plus c'est de notre faute, alors on préfère que ce soit Jim Jarmusch qui nous le dise, même avec des morts qui sortent de leur tombe, le zombie comme métaphore, Jim Jarmusch.
Ils ne viennent pas de l'extérieur de la société, comme Frankenstein ou Godzilla. Ils sont nous. Ils viennent de l'intérieur d'un système qui ne marche plus, le fait que la Terre en soit à la sixième extinction de masse.
Faire la morale n'est pas du tout le genre de Jim Jarmusch qui préfère l'humour et le soin accordé s'accorder au détail. Par exemple, que se passe-t-il quand on tue un zombie ?
Quand ils sont décapités, abattus, coupés en morceaux ou que sais-je, à l'intérieur d'eux, il y a une poussière noire. Parce que nous, les humains, nous sommes composés à 70% de fluide, alors je voulais que les zombies soient desséchés.
C'est ici à Cannes que Jim Jarmusch a été mis sur rampe de lancement il y a 35 ans en recevant la caméra d'or pour Strangers in Paradise.
On distribuait nous-mêmes des prospectus pour notre film dans les rues. On était 7 dans un appartement, on dormait par terre. Déjà que des gens voient notre film sans même parler de prix, on était fous de joie.
Du sang, des sueurs froides et des rires, il y a pire pour commencer un festival à Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Voilà, les zombies desséchés ce soir, façon Jim Jarmusch à Cannes. Vous y serez vendredi et bien frais, vendredi matin.
J'espère bien. Florence Paracuelos, merci.